Alors j'espère que j'intéresserai autant les enfants qui restent que les adultes. Le sujet peut être un peu difficile, mais bon. J'ai lu dimanche après-midi, j'ai lu vendredi soir, et je relis aujourd'hui le même texte pour situer les résolutions d'un responsable. Épître aux Corinthiens, la deuxième, chapitre 1, verset 12, jusqu'au chapitre 2, verset 3. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et vous-même le reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Dans cette persuasion, je voulais d'abord aller vers vous afin que vous ayez une seconde faveur. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, en sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes ferme dans la foi. Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir sinon celui qui est attristé par moi? J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. Ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. J'arrête là la lecture, je progresserai tout à l'heure dans ce texte. Mais pour dire en introduction simplement que l'apôtre qui est chargé d'enseigner la parole de Dieu à l'Église, et plus largement encore à tout le monde païen, émet des remarques sur un projet qu'il avait exprimé et qu'il a remis en cause. Était-il donc un homme léger dans ses résolutions ? Ce dilemme fait apparaître une situation qui se répète tout au long des siècles et à différents niveaux, c'est qu'il y a des transmetteurs et des récepteurs, des enseignants et des enseignés. Et dès lors, les meilleures conditions doivent être recherchées pour que la transmission et la réception se passent bien. Dans l'Église, Dieu a donné le ministère pour une bonne transmission de sa parole. En effet, rien ne vient de l'homme, tout vient de Dieu. C'est ce que l'apôtre dira aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1, aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu non pas comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. C'est la parole de Dieu qui agit parmi les croyants, ce n'est pas la parole des hommes. De la même façon, dans 1 Corinthiens au chapitre 3, versets 5 à 7, qu'est-ce donc qu'Apollos ? Qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante ou qui est quelque chose, ou, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense pour son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et au chapitre 2, déjà, il disait, à partir du verset 9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. » Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Tout vient de Dieu. La parole, l'esprit de vérité vient de Dieu. Ce n'est pas une parole d'homme, elle est transmise par les hommes, choisie, appelée à ce ministère, mais c'est la parole de Dieu et c'est l'esprit de Dieu. Sinon, toute œuvre est totalement vaine, infructueuse pour le salut et la vie éternelle. Alors, par la bonne transmission de sa parole, Dieu peut envoyer son Saint-Esprit. Et c'est là que sont créés des récepteurs. En fait, nous sommes devenus des récepteurs par la parole de Dieu. C'est elle-même qui nous a transformés en récepteur des choses de Dieu. Avant elle, nous n'étions même pas équipés pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. En même temps que nous avons reçu le message, nous avons reçu la capacité de recevoir le message. Et là, Dieu a pu donc nous transformer en récepteur de sa parole, en récepteur des choses qu'il a préparées d'avance pour nous. Et nous pouvons commencer donc à les comprendre, les recevoir et les mettre en œuvre. Et cette situation qui est ainsi créée nous rend responsables les uns les autres, les uns vis-à-vis des autres, d'une transmission plus complète et d'une réception plus complète. C'est une responsabilité mutuelle qui a pour fin, ce que l'apôtre met en évidence, une joie réciproque qui n'est rien d'autre que la joie de Dieu, la joie du salut, la joie des perfections de Dieu, la joie des merveilles de Dieu. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu, ce qui crée la joie, ça crée la joie dans le cœur de celui qui reçoit, ça crée la joie dans le cœur de celui qui transmet, et ainsi de suite. Alors ici, comme pour toute évangélisation, les relations initiales ont été fondées en Christ et sa grâce. L'apôtre peut prendre à témoin les disciples des bonnes conditions qu'il a créées au commencement pour transmettre la parole et la vie de Dieu. Pas lui seul, mais lui et ses compagnons qui étaient avec lui. Il mentionne Sylvain et Timothée un peu plus loin. Ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Le point de départ, c'est une conduite sainte et pure. Son approche pour communiquer la parole n'était pas fondée sur des controverses ou des disputes. Il a mis en pratique ce que l'apôtre Jacques enseigne de son côté. Nous allons aller lire dans l'épître de Jacques, chapitre 3, les versets 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. L'apôtre Paul avait mis en pratique pour lui-même cette approche dans la sagesse de Dieu. La conduite et l'enseignement se rejoignent pour que la grâce de Dieu puisse faire son œuvre. Il y a une façon de transmettre la parole qui convient à la grâce de Dieu et il y a des façons qui ne conviennent pas. L'Esprit de vérité peut confirmer cela aux disciples. Cette œuvre a été faite et elle a porté du fruit, au point que les disciples peuvent se réclamer avec fierté d'avoir accepté l'Évangile par les apôtres. Nous sommes, vous avez reconnu, du moins en partie, dit-il, que nous sommes votre gloire. Et les apôtres peuvent se réjouir d'avoir été employés efficacement au milieu d'eux. Et l'apôtre conclut, « Et vous serez notre gloire, vous serez notre gloire au jour du Seigneur Jésus. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. » Alors retenons cela, frères et sœurs, que la qualité de notre transmission et de notre réception rejaillira sur les autres au jour du Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas d'ailleurs que nous attendons ce jour et que c'est pour ce jour que nous travaillons. Dieu voulant, c'est un prochain message que je vous apporterai. Le jour du Seigneur vient. D'ailleurs, j'ai mis une petite affichette sur le panneau d'entrée. Certes, cela va mal, mais le Seigneur vient. Préparons son royaume. Travaillons à son royaume. Alors cet effet de la grâce de Dieu agissant au milieu des croyants a produit, donc c'était vraiment la sagesse et la grâce des serviteurs du Seigneur et son bon accueil par les Corinthiens qui ont produit parmi les disciples une merveilleuse prise en charge par le Seigneur lui-même, par Dieu lui-même, ce qui est signifié au verset 21 et 22. « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Entendez bien. Ce qui se passe lorsque l'Évangile est vraiment prêché et reçu, Dieu affermit les uns et les autres en Christ. Il les affermit ensemble. nous a fermis avec vous en Christ. Ensemble, les uns et les autres sont affermis. Ceux qui transmettent la parole et ceux qui la reçoivent. Il nous place de plus en plus de cette façon, le Seigneur nous place de plus en plus en Christ. C'est-à-dire que nous sommes remplis ensemble, ensemble, pas plus les transmetteurs que les récepteurs. Nous sommes remplis ensemble d'une même foi, d'un même amour, d'une même connaissance de Jésus-Christ. Et nous nous attendons de plus en plus à lui, tous autant les uns que les autres, pour exercer le ministère ou le recevoir, et pour nous édifier mutuellement, nous nous attendons au Seigneur. C'est lui qui nous a affermis. Et cela est possible, parce que quelque chose d'extraordinaire s'est manifesté. C'est que nous avons été oints. Visité par l'Esprit. Si l'Esprit n'était pas venu, rien ne serait possible. Mais visité par l'Esprit de Dieu, revêtu pour le servir et manifester sa présence sur la terre. Ceux qui étaient oints, qui recevaient l'huile, c'était, dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs et les rois, et moins systématiquement, les prophètes. Donc l'onction désigne celui que Dieu choisit. Nous avons été oints, nous avons été choisis pour manifester la présence de Dieu au sein de ce monde, au sein de l'Église, mais et plus largement au sein de ce monde. Et à cela s'ajoute le sceau, c'est-à-dire l'appartenance définitive, la marque de propriété. Ce n'est pas une chose qui vient sur nous à un moment donné, et ensuite, ça peut changer, ça peut disparaître. Nous sommes scellés pour appartenir définitivement à Dieu, que le monde et que les esprits et que l'univers sachent que nous sommes au Seigneur. Et de plus, Dieu nous fait comprendre que ce qu'il met dans nos cœurs par le Saint-Esprit, c'est-à-dire la connaissance vivante de Christ, ce n'est que l'anticipation de la vie parfaite que nous aurons en lui lors de son jour. Les arts de l'esprit, le gage de ce qui va venir, le commencement, les arts. C'est ce qui est versé pour témoigner de la totalité qui va venir après. Et c'est là que le Seigneur nous fait comprendre que ce que nous connaissons aujourd'hui de sa connaissance, de sa présence, de lui, ça sera rendu, ça sera démultiplié lorsque nous le verrons. Hélas, hélas, ces choses si belles sont souvent contrariées. Les relations fondées sur la grâce de Dieu, dont on peut attendre un si grand bénéfice, sont ternies par des réactions charnelles. Et lorsque la chair s'en mêle, tout se complique, l'incompréhension s'installe et il devient très difficile de restaurer les conditions du progrès. Et l'apôtre a été confronté à une telle situation. Et cette situation, d'après ce qu'il dit, est en train de tourner à son désavantage, au risque d'entraver, si ce n'est de ruiner son ministère auprès des Corinthiens. Mais son ministère, ce n'est pas son ministère, c'est le ministère du Seigneur, c'est l'œuvre de Dieu. Et toute cette épître prend en compte ce risque, que ce qui a été fait, communiqué, finalement, soit durablement démoli par de mauvaises interventions. Et c'est une chose terrible, que tout un travail qui a été commencé et poursuivi selon les lois du royaume de Dieu, puisse être durablement contrarié, affaibli et même anéanti par une incompréhension, une initiative qui a été mal reçue ou interprétée. Et nous devons à l'apôtre Paul d'avoir su constamment, par la puissance de l'Esprit de Dieu, revenir vers les frères retrouver les cœurs bien disposés pour désamorcer les bombes posées par l'ennemi de l'Église. C'est ce que fait le diable. Dans l'Écriture, il est écrit les traits enflammés du malin. Il n'y avait pas encore de bombes à cette époque-là. Mais nous pouvons prendre la même image. L'adversaire est toujours en train de poser des bombes pour détruire les relations entre les enfants de Dieu. Et l'apôtre a passé son temps à désamorcer ces bombes, outre qu'il annonçait la bonne nouvelle. S'il ne l'avait pas fait par ses lettres, tout en le faisant en direct de son temps, nous serions bien démunis face à toutes les crises qui peuvent secouer les églises. Et si d'ailleurs nous restons démunis, c'est qu'il nous manque encore de plonger avec détermination dans son témoignage et celui des autres apôtres pour comprendre comment nous-mêmes réagir et ôter à Satan toutes ses possibilités de nuire. Ainsi, l'apôtre avait le projet de retourner enseigner les Corinthiens. Il s'en réjouissait, comme pour tous les projets que le Saint-Esprit lui inspirait. Les Corinthiens étaient au courant. Connaissaient-ils le détail qu'il décrit ici de tout le parcours que l'apôtre avait imaginé pour servir Dieu tout en se rapprochant d'eux? Pas nécessairement, mais ils savaient que l'apôtre devait venir. Et voici qu'il n'est pas venu. Le revirement de l'apôtre a été mal perçu par les fidèles. De là, toutes sortes de bruits qui pouvaient courir sur l'inconstance de ce serviteur de Dieu. La cause aurait certainement pu être discernée par les disciples eux-mêmes, mais il faisait abstraction de ce qu'il connaissait peut-être, qui était à l'origine du problème, pour ne s'arrêter que sur les conséquences. Alors il est possible qu'un serviteur de Dieu soit inconstant, et dans ce cas il doit être jugé comme tel. L'apôtre demande aux Colossiens de dire à Archip de bien remplir son ministère. Il avait certainement des faiblesses et de l'inconstance dans son ministère. Mais ici, dans ce cas, ce n'est pas le cas pour l'apôtre. Il n'a pas du tout été inconstant. Et c'est pourquoi il coupe court aux rumeurs qui pouvaient être lancées contre lui. Et sa défense est simple et claire. La donne a changé. Une offense venue de Corinthe aurait contrarié sérieusement son nouveau passage chez eux. Alors nous comprenons la cause précise de son revirement en lisant l'épître au moins jusqu'au chapitre 7. Ce que l'apôtre a compris, c'est qu'en allant vers les Corinthiens chargés d'une tristesse, conséquence de ce qu'il avait appris, il allait faire des dégâts plutôt que de produire l'édification. Et le serviteur de Dieu est tenu non par son projet, mais même annoncé, mais par le résultat attendu de son projet. Il a préféré surseoir et envoyer une lettre pour reprendre sans choquer, sans casser la relation, mais pour ne pas non plus laisser le problème dans l'ombre. Au bout de l'épître, nous apprenons que bien des faiblesses seront encore à corriger par l'apôtre. Il s'apprête aussi à édifier par la réprimande. Mais concernant cette offense en particulier, il exprime qu'il n'aurait pas fait du bon travail. En l'occurrence, son intervention par lettre a réussi, puisque, si je vous lis la suite du texte, chapitre 2, versets 4 à 11, c'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. Non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Et il a pardonné, la personne en question a dû être reprise, jugée par les frères en interne, l'apôtre l'a su, et il peut repartir sur son projet initial, qui est d'édifier l'Église, de produire et de conduire à la joie. Mais ce report et sa justification sont l'occasion pour l'apôtre d'exposer la réalité première qui produit toutes les réponses et tous les engagements parmi les saints. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est le grand message de l'Évangile à développer et développer encore, mais qui est si simple. En donnant son Fils Jésus-Christ, Dieu s'est engagé irrémédiablement à accomplir toutes ses promesses en faveur des croyants. C'est là une chose certaine qui n'a pas d'équivalent et qui ne peut se trouver nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. En sa mort et sa résurrection, nous avons tout l'accomplissement des promesses de Dieu en notre faveur. Tout est accompli. Et cette affirmation puissante a été reçue par les premiers apôtres, intégrée, assimilée. Et lorsqu'elle est reçue, c'est avec le même caractère d'engagement total que celui de qui elle vient. Elle ne peut pas être reçue et retransmise de façon mitigée. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Le oui grec, je le disais dans un commentaire, et l'Amen hébreu, mis tous les deux ensemble. Et je dirais le oui de Dieu à tous et l'Amen de tous les croyants. Et là, la boucle est bouclée, nous sommes dans le témoignage total. Dieu a dit oui par Jésus-Christ. Les apôtres ont répondu Amen par Jésus-Christ. Amen par lui, Jésus-Christ peut déployer la gloire de Dieu. Et si nous sommes dans ces dispositions, eh bien le Seigneur déploiera aussi la gloire de Dieu au milieu de nous. Paul vit cet engagement total à Christ dans sa relation avec les disciples. Et pour nous, c'est la même chose. Il s'aligne sur la fidélité de Dieu pour n'avoir pas une parole qui soit oui et non. Aussi vrai, verset 18, hein, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Il était évident que cet engagement sans retour, qui s'est trouvé en Jésus-Christ, puisque tout part de là, c'est que Jésus-Christ n'a rien gardé pour lui-même, il s'est livré totalement à Dieu pour notre salut. Cet engagement sans retour, qui s'est trouvé en Jésus-Christ et a rempli les apôtres, se répercute sur tous les disciples qui sont fidèles à leur Seigneur. De sorte qu'il ne peut pas y avoir dans l'absolu en nous le oui et le non. Il ne peut qu'y avoir qu'une réponse totale et un engagement total par rapport à l'œuvre de Jésus-Christ en notre faveur. Et à ce moment-là, tous les projets, les résolutions que nous prenons sont alignés à cette communion avec Dieu qui s'est engagé totalement envers nous. Alors nous avons une nouvelle saison devant nous, et en cours de saison, des choses interviendront. Alors nous voulons nous engager de façon bien déterminée dans des projets de service et de témoignage, sans nous en distraire, les adapter si besoin, les faire évoluer jusqu'à ce qu'ils donnent le fruit attendu, c'est-à-dire la joie du Seigneur répandue dans les cœurs par le Saint-Esprit. C'est la seule chose qui nous intéresse, que la joie de Dieu soit communiquée. Amen. Les retenues que nous pourrons avoir doivent avoir comme motif de ne pas détruire au lieu d'édifier. Si nous nous engageons dans quelque chose et que nous apercevons que, attention, ça ne veut pas être pour l'édification, il va y avoir des mélanges de raisons humaines, de mauvaises motivations, alors là, nous pouvons dire non, je change, je reviens à autre chose. Et le Seigneur donc est fidèle pour vous accorder force et sagesse, et il le fera par cet engagement total qui est en Jésus-Christ. Il n'y a pas de réserve à avoir. Il n'y a pas de doute, pas d'hésitation. Alors nous sommes ici dans l'absolu, mais bien sûr que notre foi doit progresser pour aller dans ce sens et que le Seigneur puisse pleinement se manifester donc au milieu de nous. Amen.